Le nouveau est dans le passé, ça paraît totalement paradoxal, puisqu'on a toujours imaginé que le passé était dépassé.
Les reliques.
Imaginez la sensation que ça représente de pouvoir tenir cet anneau, de pouvoir examiner de près cette bague qui appartenait autrefois à Jeanne d'Arc.
Volée à Jeanne d'Arc lors de son procès, l'anneau auquel certains prêtent des pouvoirs magiques passe de main en main. Le 26 février, jour de la vente, les enchères décollent. C'est un Français qui rafle la mise. Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou, il est venu en personne récupérer le bijou.
Les reliques ont toujours fait converger vers elles des femmes et des hommes très divers qui en attendent un apaisement de leur souffrance. C'est le premier commerce, au sens le plus large, qu'elles entretiennent. Mais elles sont aussi l'objet d'achats, de ventes, quand ce n'est pas de vol. Au top aujourd'hui figurent toujours des saints et des saintes, Jeanne d'Arc, Mère Teresa, mais les ont rejoints parmi d'autres musiciens et chanteurs. On sait qu'un cardigan de Kurt Cobain ou une batterie de Ringo Starr peuvent atteindre des records. C'est que nous attendons aussi de la possession d'une relique une assurance de notre statut. On comprend que le Puy du Fou est entouré d'un grand lustre. La réception de l'anneau de Jeanne d'Arc qu'il vient d'acquérir, sans si rare, sont même venus de Coëtquidan pour le saluer, cet anneau, sabre au clair. Mais si nous sommes toujours enclins à la candeur, nous sommes aussi à l'époque de la traçabilité. La provenance de la relique a toujours été un souci, c'est maintenant une exigence. Si l'anneau de Jeanne repose dans un parc d'attractions en 2016, c'est que Rouen et Orléans ont choisi de ne pas l'acquérir, faute d'authentification suffisante. La prochaine dispute est déjà lancée par une demande de la Russie à la France. Le musée du Kremlin fait venir l'exposition Saint-Louis, qu'on avait pu voir à la Conciergerie, et le patriarche de Moscou voudrait en conséquence présenter à la vénération des fidèles russes le fragment de la couronne d'épines que le roi de France avait racheté en 1239 et installé à Notre-Dame. Et cette couronne d'épines devient un vrai casse-tête pour la République. C'est que l'Église catholique est affectataire de Notre-Dame et donc du meuble dans lequel est conservée la relique, laquelle est exposée régulièrement devant les fidèles parisiens, et l'archevêque de Paris déteste la prêter. Mais Poutine en a besoin. Le monde contemporain est décidément surprenant.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Edina Bozocchi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez beaucoup travaillé, Edina Bozocchi, sur les reliques. Un livre aux éditions Beauchêne, Croix, c'est la devise de cette maison. Vous pouvez nous donner l'étymologie du mot relique ?
Oui, ça vient du mot latin, reliquier, c'est-à-dire des restes. Et à l'origine, ça signifiait toutes sortes de restes. Et évidemment, dans la terminologie chrétienne, ça désigne surtout les restes corporels des saints, mais aussi des restes corporels du Christ et de la Vierge, parce que même si, selon les croyances chrétiennes, ils sont montés au ciel avec leur corps, ils ont pu laisser des vêtements, du sang, des larmes, du lait, etc. sur la terre. Mais très vite, dès le haut Moyen-Âge, il manquait quand même de reliques corporelles et on commençait à attribuer un pouvoir miraculeux aussi aux reliques dites de contact ou secondaires, c'est-à-dire des objets que les saints possédaient ou les choses que les saints et les saintes touchaient, ou encore, évidemment, la poussière de leur tombeau et des choses comme ça.
Je vous propose de réserver au Seigneur les premiers honneurs. Tout récemment, on a montré à Argenteuil, pendant la période pascale, c'était une décision de l'évêque, Monseigneur Lalanne, une tunique supposée avoir vêtu le Christ. Il ne l'aurait quitté qu'au moment de sa passion. Quelque 200 000 pèlerins, au dire de l'évêché de Pontoise, se sont rendus à la basilique Saint-Denis.
Le Christ, on lui arrache la tunique juste avant qu'il ne soit crucifié. Et on sait que cette tunique, il l'a portée avant, donc quand il a été condamné à mort par Pilate, quand il a été arrêté au jardin des Oliviers, quand il a connu son agonie à Gethsémani, et quand il a institué l'Eucharistie. Vous voyez, toute la passion est lisible d'une certaine manière sur cette tunique. Et je crois que les pèlerins, en participant à l'Office de la Passion devant la Sainte Tunique, c'est extraordinaire.
Je me suis senti qu'il y avait Jésus près de moi.
J'étais tellement saisi que j'étais absolument incapable de dire un mot, d'articuler quoi que ce soit.
Moi, j'ai essayé d'imaginer Jésus dedans.
Le pieux commentateur de la télévision, Cateo, ne se pose pas le problème de l'origine de cette tunique qui aurait été donnée par l'empereur de Constantinople à Charlemagne, pieuse légende sans doute, et dont l'attestation n'est pas faite entre le Vendredi Saint et au mieux le milieu du XIIe siècle. Ça a quand même de l'importance en bonne théologie, dans l'ancienne Église, l'authenticité.
Oui, bien sûr, mais en fait, la tunique sans couture du Christ est mentionnée déjà au VIe siècle par Grégoire de Tours dans l'un de ses livres des miracles, qui se trouverait à cette époque-là en Galatie, province de Galatie. Et ensuite, la chronique de Frédéguer, qui écrit un petit peu après Grégoire de Tours, parle aussi d'une découverte d'une tunique en Palestine à la fin du VIe siècle, d'une tunique du Christ. Mais après, effectivement, jusqu'au XIIe siècle, il n'y a pas de trace de cette tunique sans couture. Et au XIIe siècle, dans le prieuré d'Argenteuil, en 1156, on découvre cette tunique. Et selon la légende, effectivement, c'est Charlemagne qui l'aurait reçu, soit du fils de l'impératrice Irène, soit de l'impératrice lui-même.
Et encore n'avez-vous pas dit qu'une autre tunique court son chemin à Trèves. Mais la tunique, c'est quand même un objet, j'allais dire, secondaire et accessoire. Est-ce que ce qui n'est pas fondamental à la source de toute la politique et du commerce des reliques, est-ce que ce n'est pas la croix, l'invention de la croix?
Oui, tout à fait. La croix du Christ qui reste d'abord à Jérusalem. Il y a déjà un culte liturgique au IVe siècle. Ensuite, la croix arrive, la plus grosse partie de la croix du Christ arrive à Constantinople au VIIe siècle.
Constantinople qui va être un vivier.
Oui, et on a recensé dans une thèse 1150 parcelles, mais il y en avait sans doute encore plus.
Voilà. Jérusalem, Constantinople, Rome. Oui. Alors, dans les parcelles, dans les fragments de la vraie croix, il en est dans votre bonne ville de Poitiers?
Oui, notamment c'est la reine Radégonde qui a fondé un monastère à Poitiers et a obtenu pour la paix et la stabilité du royaume des Francs un morceau donc de la Sainte Croix et qui existe toujours dans un reliquaire beaucoup plus tardif quand même, mais qui existe toujours dans ce monastère de Monial qui s'appelle Sainte Croix.
Voilà. Mais pour vous, le plus important reste le Saint-Sépulcre, parce que beaucoup d'historiens de la croisade, venons-en aux croisades maintenant, disent s'il n'y avait pas eu la recherche de la croix qui était dissimulée, qui était rendue inaccessible, il n'y aurait pas eu la croisade.
Oui, mais dans mon esprit, c'était quand même plutôt pour la libération du Saint-Sépulcre que la première croisade était lancée, parce que effectivement, il y avait d'une part la destruction au début du XIe siècle du tombeau du Christ, c'était déjà ensuite reconstruit, mais les pèlerinages étaient quand même un peu empêchés ou dérangés, et donc la croix à cette époque-là, donc fin XIe, ne se trouve plus tellement à Jérusalem. C'est Constantinople et un peu partout.
Faut-il croire ces deux films américains qu'on a mêlés, comme Le Montant et La Traverse de la Croix ? Faut-il pas croire quand même qu'il restait des fragments dont on pouvait faire des échanges ?
Où est donc votre Dieu ? Il vous commande au nom de son Fils Jésus-Christ, crucifié, de conquérir la Terre Sainte pour sauver la croix du Christ.
Dieu me préserve de me glorifier, de sauver la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mont Hermon, au nord de Jérusalem.
Alors tu l'as?
Paie-moi.
Pas avant que je l'ai vu.
Maintenant.
J'ai vu bon nombre de charlatans depuis notre arrivée, et bien des chevaliers ont été trompés et ont rapporté de fausses reliques à notre Saint-Siège. Je ne serai pas de ceux-là.
Là-dedans.
C'est un authentique morceau de la croix, alors ce n'est pas à nous d'y toucher.
Est-ce possible?
Veni, veni, sanctus spiritus. Repletorum cora fidelum. Amen. Le bois saigne, c'est le sang du Christ.
Allez, je cite les auteurs de ces films, Jane Howell et Lorenzo Senna, avant de revenir à vous, Edina Bozocchi. Si fragmentation il y a, si dissémination il y a, la demande, évidemment, finirait tout de même assez vite par ne plus pouvoir être satisfaite. Heureusement, il y a l'offre que permettent les corps des martyrs et les corps des saints dûment canonisés.
Effectivement, il y a le problème du morcellement et donc la diffusion, la distribution des reliques. Cela commence, disons, à une grande échelle, surtout à partir de 415, où on trouve près de Jérusalem le tombeau du premier martyr, Saint Étienne, qui a été donc lapidé à Jérusalem. Et là, c'est vraiment à partir de ce moment-là, on retrouve les reliques ou des parcelles de reliques de Saint Étienne un peu partout, notamment en Afrique du Nord, qui faisait partie de l'Empire romain, mais jusqu'à l'Espagne, etc. Et donc, le premier recueil de miracles qui se trouve dans la Cité de Dieu de Saint Augustin parle déjà des miracles dus à ces reliques de Saint-Étienne qui sont arrivées justement à l'église de Carthage et de Hippone où Saint-Augustin était évêque. Et alors la fausseté des reliques, parce que évidemment c'est une question qui est liée à cela, au Moyen-Âge surtout, il n'y avait vraiment pas des possibilités de authentifier des reliques.
Qu'est-ce qui est le pire ? Voler des reliques incontestées ou bien fabriquer des reliques fausses ?
Oui, la fabrication des reliques fausses, il n'y a pas beaucoup de documentation là-dessus parce que évidemment, si sans doute cela se faisait,
mais évidemment, on n'en faisait pas de
procès-verbaux. Voilà, tout à fait. Par contre, pour les vols de reliques, alors ça c'est encore une question très complexe. Le vol est quelquefois tout à fait glorifié parce que on dit que dans l'ancien sanctuaire, les reliques n'étaient pas vénérées suffisamment, donc ça justifie l'enlèvement, la translation des reliques vers un autre sanctuaire.
Mais alors, aux esprits forts qui nous écoutent et qui sont tentés d'arrêter de nous écouter, je voulais quand même rappeler quelques faits contemporains. Les mains du Che Guevara ont été coupées après qu'il a été abattu par les policiers boliviens, formalisées, et caché par le ministre de l'Intérieur, dans un mausolée souterrain sous sa chambre à coucher. Mais Fidel Castro, de son côté, voulait absolument les récupérer. Et il a fini par déléguer la mission à des militaires, dont un certain Quiroga, qui a récupéré les mains, les a cachées sous le sol de sa propre chambre à coucher, s'est fait démasquer quand les enfants de son logeur ont découvert ces objets, qui étaient très poilus et en état de décomposition, les a récupérés, est parti avec dans une valise à Moscou, Lima, Bogota, Caracas, Madrid, Paris, Prague, a fini par pouvoir s'envoler pour La Havane. Fidel Castro a récupéré les mains du Che Guevara et on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Témoignage dans la Nouvelle Revue Française, chez Gallimard, il y a une dizaine d'années, de Quiroga, le militant communiste qui a mené cette épopée. Et je ne vous parle pas des mèches de cheveux de John Lennon qui pourtant disait « je ne crois pas à Jésus, je ne crois pas à Bouddha, je ne crois pas au mantra », mais souvent, ses admirateurs croyaient en lui comme à un dieu.
Just believe in me. Yoko and me. And that's reality. Oh. what can I say? The dream is over. Yesterday I was the dream weaver, but now I'm reborn. I was the walrus, but now I'm John. And so, dear friend, we just have to carry on.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Un fan à qui ce week-end un souvenir des Beatles, pas n'importe lequel, une mèche de John Lennon. Et oui, la célèbre coupe au bol du chanteur, et bien voilà, quelques poils acquis pour la somme de 30 000 dollars.
Et nous ne parlons pas des objets qui ont touché le corps de Claude François. Non, on est avec Edina Bozocchi. En plein Moyen-Âge, on va finir par déboucher sur l'époque de la Réforme et de la Réforme catholique. Edina Bozocchi a publié nombre de livres sur ce sujet foisonnant, exubérant et toujours rebondissant. On a parlé de Constantinople, on a parlé de Jérusalem. Rome est un vrai vivier pour les reliques.
Oui, tout à fait. Et notamment à l'époque carolingienne, quand on fonde de nouvelles églises en Germanie, en Allemagne, on cherche des reliques à Rome. Et là, il y a carrément une sorte de commerce de reliques. Il y a un diacre qui s'appelle Deus Dona, qui connaît très bien les catacombes. Et l'auteur de la vie de Charlemagne, Eginhard, a trouvé de cette façon des reliques pour des églises en Allemagne.
Vous voulez dire qu'on prélève dans les catacombes les
ossements? Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait.
Des premiers chrétiens qu'on décrète saints.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, c'est vraiment un véritable commerce de reliques. Celui qui était donc à Rome en a tiré tout à fait des profits.
Aux reliques, les pèlerins attachent une valeur thaumaturgique, une valeur de guérison. Mais le pape aussi peut donner une recharge aux reliques en les bénissant ou en les accompagnant d'indulgence. Ce qui va ouvrir un terrain de chasse aux critiques de la Réforme. On entend ici, dans son monastère de Wittenberg, Luther, c'est le film d'Éric Thiel.
Qui d'entre vous est allé à Rome? Avez-vous acheté des indulgences?
Non.
Moi si. Pour une pièce d'argent, j'ai libéré mon grand-père du purgatoire. Pour deux fois ça, j'aurais pu libérer mamie et oncle Marcus aussi. Mais je n'avais pas la somme, alors ils ont dû rester au chaud.
Approchez, voici pour toutes les indulgences de Rome toutes chaudes. Tenez, un morceau du voile de la Vierge. Et ça, c'est un bout de la voile de Saint-Pierre quand il naviguait au loin, bien avant que le Christ le prenne avec lui et lui montre comment on peut marcher sur l'eau. Radix malorum est cupiditas, la cupidité. C'était la racine de tous les maux. Ne soyez pas cupide. Achetez.
Et pour moi, les prêtres m'ont assuré que rien qu'en regardant des reliques sacrées, je réduisais mon temps de purgatoire. Heureusement pour moi, Rome avait assez de clous de la Sainte Croix pour ferrer tous les chevaux de Saxe. Tous authentifiés comme de vraies reliques.
Les lecteurs de Saxe avaient une belle collection. Souvent, les souverains de Louis XI à Philippe II, qui à l'Escorial battaient les records, avaient de belles collections.
Tout à fait, et notamment donc à Wittenberg, le prince électeur Frédéric avait plus de 17 000 fragments, et Luther était choqué, pas peut-être par la collection, mais par les indulgences qui ont été liées à cette collection.
À Genève, Calvin renchérissait, et un des grands livres qui fait le mieux le point, peut-être à cause de sa solide documentation sur ce sujet au XVIe siècle, c'est le traité des reliques de 1543.
Oui, c'est un travail évidemment qui peut vraiment heurter la sensibilité des catholiques parce qu'on se moque de multiples tête ou de main ou d'autres fragments des seins. Mais alors là, quand même, il faut peut-être préciser que dans les écrits médiévaux, quand on parle de la tête ou de la main ou du pied d'un saint, ça peut signifier juste un fragment. Par exemple, Jean-Baptiste a plusieurs têtes aussi comme relique, mais c'est peut-être juste des fragments. Donc c'est pour dire que c'est pas quand même tout à fait faux au Moyen-Âge.
La fureur dévastatrice des Huguenots en France va dévaster les reliquaires de Rocabadour, de Saint-Martin de Tours, de Saint-Gilles-du-Gard. Agrippa d'Aubigné rappelle qu'à Périgueux, les Huguenots ont brisé une fiole dans laquelle, figurez-vous, était contenu un éternuement du Saint-Esprit.
Oui, il y avait des reliques tout à fait comiques aussi, comme les larmes du Christ, mais qui étaient quand même tout à fait pris au sérieux par certains pèlerins. Mais en ce qui concerne les écrits de Agrippa d'Aubigné, c'est beaucoup moins sérieux en quelque sorte que le traité de Calvin, qui était basé sur une documentation, et les écrits d'Agrippa d'Aubigné reste plutôt dans le domaine de la plaisanterie. Voilà.
Et de la caricature.
Oui.
Les catholiques vont prendre au sérieux quand même un certain nombre de ces critiques et mener des réflexions pour authentifier. De même qu'ils écrivent des vies de saints de plus en plus sérieuses à partir du XVIIe siècle. Qu'est-ce que le Concile de Trente, dont on dit qu'il a donné le branle à la réforme catholique, à la contre-réforme, dit des reliques? Il en reconnaît la valeur possible, il célèbre les retrouvailles avec les reliques quand elles ont été préservées des Huguenots, et en même temps le Concile dit attention.
Oui, tout à fait, mais en même temps c'est quand même la contre-réforme qui va relancer le culte des reliques, et notamment peut-être avec l'exploitation, nouvelle exploitation des catacombes.
Alors qu'est-ce qui se passe dans la Rome baroque?
Oui, parce que ça,
sous la Rome baroque.
Tout à fait fascinant. Peut-être il faut rappeler aussi les catacombes, c'est tout simplement des lieux d'enterrement en dehors des murs de Rome pour les chrétiens, donc dans des sablières abandonnées à l'époque paléo-chrétienne. Et déjà au IVe siècle, le pape Damase commence à faire des épigrammes, des épitaphes pour les martyrs qu'on a pu identifier. Et à la fin du XVIe siècle, on commence à distribuer à partir des catacombes, des reliques, et on fait des fausses identifications. On va avoir un critère que toute sépulture marquée d'une palme et dans laquelle se trouve une ampoule remplie d'un liquide rougeâtre, est considérée comme une tombe de martyr.
Les ordres religieux qui ont mené la contre-réforme diffusent les reliques, par exemple les jésuites, et puis la contre-réforme produit des saints. Saint François de Sales, chaque fois qu'on lui coupait les cheveux, disait « tiens, c'est des futures reliques ». Son ami, Sainte Jeanne de Chantal, en a fait de sa langue, parce qu'elle parlait bien, une relique. Et ne parlons pas de Saint François Régis, l'apôtre du Vivarais, dont, souvenez-vous, dans L'Auberge Rouge, le film de Claude Autant-Lara, Fernandel transportait précieusement une relique qu'il dévoilait ainsi aux clients de l'auberge.
Oh, la jolie soirée!
Et si vous voyez ce qu'il y a dessous?
Montrez, mon père!
Un trésor inestimable. Un trésor que toutes les plus grosses fortunes du département, avec leurs ors et leurs argents, ils pourraient pas se l'acheter. Un morceau de tibia du patron de l'Ardèche, notre grand Saint François Régis.
Oh!
Mais c'est de l'or!
Mais bien sûr, c'est de l'or, des rubis, des opales, des émeraudes, quelques diamants. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, à côté de l'humble petit ossement qui est là-dedans.
Si on rassemblait tous les tibias de Saint-François-Régis qu'on vous montre dans les églises, ce ne serait plus un saint, ce serait un mille pattes.
Oh.
Monsieur, il vaut mieux mille pattes pour aller au ciel que deux pour aller en enfer.
Moi, j'ai toujours eu une dévotion particulière pour Saint-François-Régis.
Merci pour cette bonne parole, mon fils.
Surtout présenté comme ça.
Je vous permets de le baiser.
Mmh.
Et à tous les chrétiens qui sont ici.
Je vous permets de le baiser. Ça, c'est le point central. Enfin, évidemment, le point central du film, c'est la concupiscence de l'aubergiste qu'on vient d'entendre. Pendant la contre-réforme, on les met sous cloche, plus qu'avant, les reliques avec ces objets précieux qui les dissimulent et qui les entourent, et on n'aime pas que le fidèle touche.
Oui, mais pendant quelques cérémonies, et peut-être justement c'est l'occasion des ostensions limousines actuellement pendant plusieurs mois, on découvre les reliques, c'est-à-dire on ouvre les reliquaires et les fidèles peuvent toucher les reliques.
Toucher.
Oui, mais, par l'intermédiaire d'un petit morceau de coton, des choses comme ça, mais on peut vraiment s'y rapprocher et c'est ça qui est assez exceptionnel pour.
Mais il y a un côté magique dans le toucher, comme si la relique était un dieu elle-même.
Oui, ben comme si la relique avait un véritable pouvoir, une force thaumaturgique, donc qui peut produire des miracles. Donc c'est un peu cette croyance qui est renouvelée dans ces cérémonies, mais évidemment, si on retombe sur les ostensions.
Alors, ces ostensions du Limousin, on en parle parce qu'elles ont lieu maintenant.
Oui, c'est toujours pendant cette période parce que, en fait, c'est tous les 7 ans et ça commence autour de Pâques et se termine en automne. Et en fait, la première ostension, c'était plutôt une élévation des reliques. En 994, il y avait une épidémie dans la ville de Limoges, et comme il y avait les reliques de Saint Martial, qui était considéré comme l'apôtre de la ville, on a élevé les reliques, on a fait évidemment d'autres cérémonies, prières, jeûnes, etc. Et finalement, l'épidémie a cessé, on a fait même une sorte de pacte de paix et de justice, donc c'était très important. Et ensuite, il y avait plusieurs phases et ostensions, en tout cas élévation de reliques, mais c'est seulement depuis 1463 qu'il y a des ostensions régulières à Limoges et ensuite en d'autres endroits.
Alors, donc les rendez-vous début mai, là, c'est plusieurs villages et Saint-Léonard de Nobla.
Tout à fait. Ce qu'il faut rajouter aussi, qu'actuellement, les ostensions limousines ont été classées au patrimoine culturel immatériel de l'humanité il y a trois ans, en 2013. Et donc, on considère que ce sont des cérémonies, même si ce sont des cérémonies religieuses, mais qui ont aussi un aspect culturel et identitaire très important. Mais le Conseil d'État, justement la même année, 2013, a interdit des subventions publiques donc pour ces cérémonies qui continuent quand même. Il y a cette année 20 endroits où il y a les ostensions.
Vous diriez d'un mot, pour conclure, Edina Bozuki, que jamais ne se tarira la source du culte des reliques, qui est notre croyance, notre recherche d'un recours possible.
Je peux pas le savoir, parce que quand même, il y a beaucoup moins de cultes de reliques maintenant qu'au Moyen-Âge, parce qu'il y a aussi des pèlerinages, par exemple, au lieu d'apparition de la Vierge à Lourdes, des choses comme ça. Et il faudrait souligner aussi que chez les musulmans, il y a des reliques aussi de Mohammed, notamment à Istanbul, au palais de Topkapi, ou encore ailleurs, un peu dispersés. Et évidemment, il y a, c'est encore plus important, des reliques bouddhistes, les reliques de Bouddha, qui sont très importantes aussi.
Merci à vous, Edina Bozuki. Ceux qui cherchent une quête plus intellectualisée liront votre livre sur le Graal, qui paraît bientôt aux éditions du CNRS. Et puis sur notre site, tous vos livres sur les reliques au Moyen-Âge, et notamment celui publié, c'était votre habilitation de recherche il y a 6 ou 7 ans aux éditions Beauchesne. L'émission a été préparée par Franck Olivard et Clara Garzon, réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Julien Chabassu. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme, cher Mathieu Vidard, de la tête au carré dans quelques instants?
Oui, Jean Lebrun, de la marche de l'histoire. Eh bien, nous allons parler de la myéline, cette fine gaine protectrice de notre système nerveux.
Bon, ben, je mets ça dans mon dictionnaire des nouveaux mots.
Voilà.
Comme presque chaque jour, grâce à vous, Mathieu.
À tout à l'heure.